C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Bonjour à tous, bienvenue à l'émission des boulons, l'émission des boulonnés. Alors nous sommes à l'émission 104 aujourd'hui. Autour de la table, je vais vous présenter Jean-Claude qui vient faire une rubrique, ainsi que Michel, Alexis. Je vais animer avec Hugo.
Bonjour à tous.
Nous allons aussi avoir un deuxième Alexis. Nous allons avoir Cathy et Julien.
Et bien sûr, forcément.
Alors bien sûr à la technique, nous avons Cédric. Et nous avons deux invités. Bonjour. Nous avons deux invités, Nicolas et Marc.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Qui font partie donc de l'association Alliance Galactique du Boulonnais.
Voilà. Eh bien, sans plus attendre, on va tout de suite démarrer l'émission. Et on va démarrer une chronique sur le PSG, présentée par Jean-Claude. Allons-y.
Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Voilà, je vais te questionner un peu sur le petit club de foot de la capitale, qui est le PSG, 2025. Peux-tu me dire où se trouve le centre d'entraînement ?
Le centre d'entraînement est à Poissy.
Oui, et le stade du PSG, c'est lequel ?
C'est le Parc des Princes, avec 47 929 places.
Oui, il sera question qu'ils fassent un autre stade, mais enfin, c'est en projet.
Ou enfin, ils veulent racheter le stade du Parc des Princes. Mmh.
Le manager ?
Luis Enrique.
Qui est espagnol, hein, je crois.
Ouais. Mmh.
La date de création du club ?
12 août 70.
Et le terrain d'entraînement, c'est ?
Le campus du Paris Saint-Germain.
C'est le camp des loges ?
Non.
Le camp des loges était le centre d'entraînement avant.
Ouais. Mmh.
Ils ont changé. Donc.
D'accord.
Le président du club ?
Nasser Al-Khelaifi. 37 titres depuis son arrivée.
Oui, c'est quand même glorieux.
Hein. Il est de quelle nationalité, ce monsieur ?
Le Qatar.
Du Qatar.
Merci. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de lui.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Mmh.
Le classement du championnat de France de Ligue 1 en saison 2024-2025.
Alors, 84 points, premier, 26 gagnés, 6 nuls, 2 perdus.
Oui, 2 perdus, c'est pas beaucoup. Hein.
Non, c'est pas beaucoup.
Oui. Et qu'est-ce qu'il y a comme compétition à venir pour le PSG ?
Aller passer, c'était le 15 juin. C'est la Coupe du Monde des clubs FIFA.
Ah oui, la Coupe du Monde.
PSG, ouais. Atlético de Madrid.
D'accord. L'effectif du PSG pour la saison 2024-2025,
alors,
les gardiens de but ?
Donnarumma et Safonov.
Safonov, oui. Les défenseurs ?
Hakimi, 7 buts, 12 passes décisives. Marquinhos, 3 buts. Nuno Mendes, 5 buts, 5 passes décisives. Zahir Emery, 3 buts, 2 passes décisives. Beraldo, 1 but. Pacho.
Les milieux de terrain.
Fabian Ruiz, 5 buts, 10 passes décisives. Marco Asensio, 2 buts, 4 passes décisives. Vitinha, 7 buts, 2 passes décisives. Likanli, 6 buts, 6 passes décisives. Mayulu, 4 buts, 4 passes décisives. João Neves, 5 buts, 9 passes décisives.
D'accord. Les attaquants du PSG ?
Alors, Kvaratskhelia, 6 buts, 5 passes décisives. Gonzalo Ramos, 18 buts, 6 passes décisives. Dembélé, 29 buts, 11 passes décisives. Doué, 13 buts, 11 passes décisives. Barcola, 19 buts, 16 passes décisives.
Et les trophées remportés, autres que le championnat ?
La Coupe de France, Paris Saint-Germain 3, Reims 0. La Ligue des champions, Paris Saint-Germain 5, Inter de Milan 0.
Oui, parce que c'est très important. Et ils ont gagné un titre en 96, entraîné par Luis Fernandez. C'était quel trophée qui n'existe plus, je crois.
La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.
Voilà.
Super.
Et la Ligue des champions 2025, sur les organisations.
Ah oui, là, oui.
Et donc avec des nouvelles recrues, Doué, tout ça.
Doué qui fait. Doué qui a été formé au club.
Une formation, oui, une saison excellente.
Oui, ça. Il est rentré en équipe de France en plus. C'est bien.
Tout de suite, donc, on continue avec Luc. Luc qui a rencontré Fernande et qui, donc, nous, comme tous les mois, nous propose une recette de cuisine. Voilà. C'est quoi comme recette, du coup, aujourd'hui, Luc ?
Oh, je vais laisser Fernande la présenter.
Super.
Poireaux.
Sucré.
Cassonade.
Chocolat.
Confiture.
T'es là.
La recette du jour.
Bonjour Féfé, bienvenue à l'émission des radios, de la radio des Boulons. Qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui, Féfé ?
Bonjour à tous, bonjour. Bonjour, c'est Fernande. Aujourd'hui, c'est la recette des croque-monsieur aux carottes râpées, thon au samouraï. Il faut un paquet de pain de mie. Il faut des carottes fraîches, une boîte de thon et du samouraï. Une barquette de fromage blanc à tartiner. Dans un saladier, il faut éplucher les carottes, les laver, les râper, mettre dans un saladier une boîte de samouraï au fromage blanc moins cher, une boîte de thon, on mélange tout, la préparation. Ensuite, on prend des tranches de pain de mie, on badigeonne avec de la moutarde, les deux côtés, et on met un peu de préparation sur le croque. On referme-le avec le chapeau, la tartine de pain de mie, et on fait cuire au croque-monsieur.
Ah d'accord, moi je pensais que vous le mangez froid, mais non, vous le faites cuire quand même.
Ah oui. Oh, bah oui, c'est comme un croque-monsieur.
Ok, d'accord, ça marche.
Et puis on peut manger ça avec la salade. Mais c'est mieux que la salade, ça accompagne moins. Bon appétit à tous et merci.
Eh ben parfait, bon, c'est une recette rapide, facile et puis d'actualité parce que c'est l'été. Hein, donc on peut manger ça cet été.
Et vous pouvez goûter, c'est très bon.
Ok. Eh ben merci Féfé. Est-ce que vous avez encore un petit mot à nous dire ou petit quelque chose à rappeler?
Je vais venir vous revoir bientôt, parce que pour l'instant, ma santé ne permet pas de venir, mais vous savez. Et je pense très fort à vous, et bonne continuation à vous, et je vous écoute toujours.
Eh bien, c'est parfait. Ben, merci, Féfé, et puis à bientôt, Féfé.
Merci de penser à moi, je vous adore tous.
Eh bien, nous aussi. Allez, bonne journée, Féfé. Au revoir.
Au revoir, et bonne journée.
Donc on va faire maintenant notre première pause musicale. C'est un morceau de Claude Barzotti.
Alors ça a été choisi par Fernande, bien sûr. Et le titre, c'est Aime-moi.
Danser du regard et des mains, t'apprivoiser une proposition, un pourparler, une invitation. Tanguer comme les radeaux des rives, les canoës, comme le vin enivre, se griser comme un tango, tanguer se renverser, tomber comme l'oiseau porté par les grands vents, comme le bateau au fond de l'océan. Comment choisir le vide, le néant? Aime-moi. Surtout plus penser, tes doigts, te toucher, te troubler, dire que je danse, mais t'apprivoiser, tomber dans cet orage, mourir foudroyé, dans ce volcan, me perdre et m'y brûler, mourir d'amour et en ressusciter.
Aime-moi
comme une parenthèse, une pause, une trêve, un vide où je me noie.
Aime-moi
comme l'amour en rêve, sans interdit, sans règle, ne plus penser qu'à ça.
Aime-moi
et comme un sacrilège, assouvir le cortège de mes désirs de toi.
Aime-moi
et j'arrête le temps, respire à contre-temps, ne respire presque pas. Aime-moi.
Je trace le chemin de la bouche et des mains, te dessine la voie.
Aime-moi.
Et c'est moi qui décide, qui t'emmène et te guide et dispose de toi.
Aime-moi.
Te manger comme une pomme, qu'on craque et abandonne, te prendre comme un homme. Je connais la manière et comment il faut faire pour trouver la lumière.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Alors c'était Claude Barzotti, une chanson pour Féfé. Qui est très romantique. Maintenant, nous allons accueillir Julien, qui va nous présenter sa chronique sur les fourmis. À vous, Julien.
Exactement. Alors, je vous ai fait un petit mot pour vous annoncer mon retour dans l'élevage de fourmis, que je vais vous lire tout de suite. Donc, après quelques années d'interruption, je compte reprendre l'élevage de fourmis. Mes prochaines rubriques seront donc sur le suivi de mes fondations et colonies, si déjà d'ici là j'ai réussi à trouver une reine. Les essaimages cette année ont commencé pour certaines espèces en France, ils vont durer tout l'été et une partie de l'automne pour les granivores du sud de la France. Il me reste pas mal de temps pour trouver cette reine, en espérant ne pas louper ces 10 essaimages. Je pense déjà à sortir ce week-end, guetter un peu si je n'en vois pas, car il paraît qu'il va faire de l'orage et c'est après un orage souvent que les rennes s'envolent pour s'accoupler. Vous imaginez donc que je ne vois pas encore quelle espèce va faire mon bonheur. Peut-être achèterai-je ma reine auprès d'un des sites marchands si je loupe tous les essaimages de juin, voire juillet. Et dans ce cas, je pense prendre l'espèce Formica fusca, une fourmi des bois. Alors pourquoi ce choix? Tout simplement car c'est une fourmi évoluée, intéressante à observer et qui fait de grandes colonies. Si vous avez des questions en général sur les fourmis, je peux sûrement y répondre à peu près, donc à peu près à tout, donc, et d'ores et déjà. Voilà.
Comment tu les reconnais, Julien?
Je les reconnais? Les reines, d'accord. Alors les reines, c'est, on différencie les reines des ouvrières en fait en regardant le gastre, c'est-à-dire le ventre.
Oui.
Qui est beaucoup plus gros chez une reine, et puis le thorax qui est aussi beaucoup plus développé, et on voit les cicatrices et l'air des reines fourmis qui sont sur le sol parce qu'ils ont arraché leurs ailes en fait, et on voit des cicatrices sur les deux côtés du thorax.
D'accord.
Comment fais-tu pour avoir une fourmilière chez toi?
Pour avoir une fourmilière chez moi, en fait au tout début on prend juste une reine toute seule et on la met dans un tube à essai. Avec de l'eau dedans qui est... comment expliquer ça? En fait, c'est un coton qu'on bourre dans de l'eau, dans un tube à essai. Et puis la partie où il n'y a pas d'eau, du coup, parce que forcément à la moitié vous avez mis le coton qui bouche, qui retient l'eau, pardon. Dans cette partie, vous mettez la reine, et ensuite pendant un mois vous la laissez de côté. Elle va pondre ses œufs, ça va devenir des larves, des cocons, et enfin des ouvrières. Il n'y a pas besoin de la nourrir pendant ce temps-là parce qu'elle va se nourrir grâce à ces cicatrices ailaires justement que je parlais juste avant, qui ont encore des bouts de chair en fait, et elle va se nourrir de ça. Et ça va lui faire une réserve de nourriture qui va servir à nourrir les œufs. Et elle a aussi forcément fait des réserves avant de quitter la colonie aussi.
J'ai deux questions, si vous me le permettez. La première, d'où vient cette passion? Et la deuxième, il n'y a pas besoin de mâle pour féconder?
Ah si. Alors la première, du coup. Cette passion, ça vient de mon enfance. En fait, j'allais souvent dans le jardin regarder un peu les insectes. En me documentant un peu sur tous les insectes, j'ai trouvé que les fourmis, c'était un peu ce qui était le plus intéressant et ce qui... Je ne sais pas comment expliquer ça.
Peut-être le plus accessible aussi.
Oui, aussi, oui, il y a beaucoup de documentation là-dessus. Il y en a partout en fait.
Oui, c'est ça, c'est accessible. C'est-à-dire qu'on peut le trouver n'importe où. On peut trouver des fourmis un peu partout dans nos jardins et même dans nos maisons, je dirais.
Ouais, des fois, ouais, malheureusement. Et la deuxième question, c'était.
Vous parliez de qu'elle pond. Elle pond des larves, mais biologiquement, est-ce qu'elle a besoin d'un mâle pour être fécondée?
Ah oui, alors oui. Elle va être fécondée lors d'un vol nuptial, c'est ce que je disais dans ma chronique. Alors le vol nuptial, si vous voulez, il faut qu'il fasse un temps lourd. En général, c'est après un orage. Et les reines, les princesses, du coup, qui ont encore leurs ailes, s'envolent et ils vont se féconder à des mâles d'autres colonies. Elles vont s'accoupler avec des mâles d'autres colonies lors d'un vol nuptial.
D'accord. Donc toutes les fourmis qu'on voit qui volent sont obligatoirement des princesses ou des reines, alors? Puisqu'elles perdent leurs ailes après.
Elles arrachent leurs ailes après avoir été fécondées par un mâle, parce qu'elles en ont plus besoin et elles vont se nourrir justement, comme je disais, des cicatrices ailaires.
C'est ce qu'on appelle les fameuses fourmis à ailes, comme on dit.
Ouais. Donc elles ont besoin de les enlever en fait.
Et tu arrives à avoir une fourmilière chez toi? Les fourmis, oui. Elles se déplacent
Ah non, mais c'est dans un nid. Après, je leur construis un nid en béton cellulaire ou en plâtre.
Un terrarium alors? C'est un terrarium?
Non, parce qu'il n'y a pas de terre. Enfin, c'est... En fait, si vous voulez, on creuse un bloc de béton cellulaire pour faire les galeries des fourmis. On met une plaque, une vitre dessus. On fait une petite entrée au niveau de la sortie du béton cellulaire. Enfin, ouais, non, comment dire, ouais, enfin, vous m'avez compris. Et puis on relie ça à une aire de chasse, c'est-à-dire que l'aire de chasse, elle va servir à nourrir les fourmis et qu'elles aménagent un peu leur nid comme elles veulent. Par exemple, elles vont prendre des matériaux et puis elles vont les ramener dans le nid pour l'agencer comme elles veulent.
Et pourquoi pas à ce moment-là leur mettre simplement de la terre et où elles feraient leur galerie elles-mêmes comme dans la nature?
Parce que dans ces cas-là, la terre, c'est compliqué parce que, enfin, c'est possible. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut, si on loupe une humidification ou qu'on laisse comme ça trop longtemps, quoi, enfin, la terre elle peut pourrir déjà, et après les galeries peuvent s'effondrer si c'est trop sec, si justement on loupe une humidification, ça pourrait les enterrer en fait, les fourmis.
D'accord. Et tu t'es déjà amusé à les compter?
Allez compter.
Joue avec son doigt.
Ah oui, quand j'avais des colonies, ouais, bon, ouais. J'ai réussi à avoir une colonie de 200 seulement d'ouvrières. Bon, c'est déjà pas mal. Mais...
Bah ouais, c'est dû à ça.
Bon, il y en a, ils ont des colonies, ils font 5000 ouvrières, un truc comme ça.
Bah ouais, mais ma petite entreprise ne connaît pas la crise.
Avec 5000 ouvrières, on fait une maison.
Bah, c'est déjà pas mal.
Okay. Parfait, bah merci bien.
Merci, Julie.
Alors, nous allons continuer notre émission avec Alexis maintenant et Cathy.
Bonsoir à tous.
Qui vont nous parler. Bonjour. De Ribéry.
Franck Ribéry.
Je vais te poser quelques questions, Alexis.
Ouais.
Tu vas nous parler de Franck Ribéry. Qui est-il?
Bah, c'est un footballeur international.
Oui.
Il vient de Boulogne-sur-Mer.
Oui.
Il a 42 ans.
42 ans. On ouais. l'aurait cru plus jeune. A-t-il des frères et sœurs?
Oui, il y en a deux.
Qui jouent également au football?
Au football, oui.
D'accord.
Il a des sœurs?
Non.
Il n'a pas de sœurs, il D'accord. a deux frères. Dans quelle équipe de foot a-t-il joué?
Alors, il a joué en 2005, il a joué à, c'est compliqué à dire, Galatasaray.
Galatasaray, c'est ça.
Ouais. Turc.
Ouais.
C'est le nom de...
D'accord.
Après, en 2007, il a joué, de 2007 à 2019, il a joué à Bayern Munich. Et de 2019 à 2021, il a joué à Acer Fante.
En tout, il y en a combien de clubs qu'il a fait?
Il a joué aussi à l'École Olympique de Marseille.
D'accord.
En tout, il a joué dans...
Il a failli choper un ballon d'or.
Il en a fait 5.
5
ouais.
5 clubs.
Et savez-vous qu'il y a une tribune du Stade de la Libération à Boulogne qui porte son nom?
Oui.
Ouais.
Ouais. La tribune Franck Ribéry.
D'accord.
Et là, il est en retraite?
Oui, il est en retraite, là.
J'ai souvenir d'un portrait de Franck Ribéry sur le port de Boulogne.
Oui,
qui
vrai,
avait
c'est
été
vrai, c'est
il y a
vrai.
Quelques années affiché en géant à l'entrée du port.
Ouais. En lieu et place maintenant de la salle de spectacle.
Je pense que c'était un petit peu plus loin. Il me semble que c'était au niveau du blocos.
D'accord. Vers la capitainerie, ouais.
Ouais,
okay.
Quelle est sa spécialité?
Ah, il est attaquant.
Attaquant.
Ouais.
C'est un bon buteur.
Ouais.
D'accord.
Et dans quel club a-t-il commencé?
À Boulogne.
Ah, notre ville.
À L'Aiglon. L'Aiglon.
À L'Aiglon.
Pour la petite histoire, ma belle-sœur était en cours avec lui à Langevin.
Moi, j'y suis aussi allée à Langevin.
Il y a Jean-Claude du fond de la salle qui nous dit qu'il a gagné la Ligue des Champions.
Si Jean-Claude le dit,
c'est que c'est vrai.
C'est vrai. Ben voilà, merci Alexis.
Okay, il a fait du bien aussi à l'économie boulonnaise parce qu'il a acheté plusieurs bâtiments et lancé des entreprises qui n'ont pas toujours été florissantes. Mais il faut dire qu'il a toujours gardé ses racines boulonnaises. Et même si j'y connais rien en football, je pense qu'il faut aussi saluer la personne qui est restée un petit peu boulonnais dans son cœur.
Ouais.
Et il est toujours revenu les week-ends. Il s'est marié sur Boulogne d'ailleurs. Il est toujours revenu les week-ends et il n'a jamais oublié sa famille et ses amis. Bon, je ne le connais pas personnellement, hein, mais je sais que c'est une personne assez fidèle en amitié. Et localement, on va dire, au chemin vert, qui a été apprécié.
C'est vrai, non, mais en plus, il est très, très, très accessible. Moi, j'ai déjà rencontré par hasard au niveau d'un feu rouge. Et...
Ouais, fort
sympathique.
Il vous a fait un bras d'honneur parce que vous
avez... Non, du tout. Il a ouvert son carreau. J'étais là à regarder. Je dis, mais je le connais, je me disais en moi-même. Et puis, il a ouvert son carreau et puis il m'a fait signe. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Ça m'a suffi.
Voilà.
Bon, ben merci à vous. Et
merci.
Puis,
ben
maintenant, nous allons accueillir les invités de Hugo, en la personne de Nicolas et Marc.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation.
Merci de nous avoir invités. C'est très sympathique à vous.
D'accord.
Tout à fait.
Donc, vous représentez une association qui s'appelle l'Alliance Galactique du Boulonnais.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et vous êtes les deux coprésidents.
On est trois.
Vous êtes deux des trois.
On est deux des trois coprésidents, voilà.
D'accord.
Oui, c'est une particularité de notre association. On a voulu faire une association collective et non pas pyramidale. On a estimé que dans le cadre de nos activités, il valait mieux que ça soit une forme d'autonomie, d'offrir une forme d'autonomie aux membres qui étaient dans notre association pour pouvoir s'autogérer, je dirais, et puis proposer que chacun ait la même place et le même nombre de voix.
C'est bien. Ça veut dire qu'un adhérent peut avoir autant de poids
qu'un
co-président.
L'adhérent, le président, celui qui vient aider, aura son mot à dire et écouter au même titre qu'un autre.
C'est assez intéressant, mais c'est un peu aussi risqué de notre côté.
C'est pour ça qu'on essaye de rester une structure un peu petite pour éviter que ça parte dans tous les sens, mais aussi pouvoir donner une certaine forme d'autonomie à chaque membre qui puisse représenter l'association dans telle ou telle animation sans passer forcément par les coprésidents. On n'est pas toujours disponible.
Ah oui, ça permet un peu plus de flexibilité. Du coup, vous êtes combien d'adhérents ?
À ce jour, on est 11 personnes. Voilà, c'est une petite structure. Hein. C'est la troisième année que l'on exerce, mais on n'est que 11. Et pour l'instant, c'est très bien.
Ok. Donc, Alliance Galactique du Boulonnais, d'où vous... Pourquoi ce nom? D'où vient-il? Expliquez un peu l'histoire.
Le boulonnais, bon, ça on va comprendre tout de suite. Hein. Oui, on n'a pu mettre que de deux pannes. Bon, on a voulu être un peu plus restrictif avec le boulonnais. Alliance Galactique, parce que ben, nous sommes des fans de Star Wars, de tout ce qui est l'univers geek des années 80-90, les films science-fiction, les films d'action, les dessins animés, les musiques, tout ça. Donc on regroupe quand même. Notre point de ralliement, c'est ça. C'est justement la pop culture, le geek, ouais, le, voilà.
Et l'alliance, parce qu'on voulait regrouper différentes formes de, d'art touchant la pop culture et la science-fiction, et surtout regrouper différentes personnes. On voulait faire une alliance. On sortait d'une association qui était monothématique, qui était Star Wars Côte d'Opale, que l'on avait fondée il y a 10 ans, et on avait envie de faire quelque chose de plus large, mais qui pouvait regrouper également des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées par Star Wars, mais par d'autres thématiques, et aussi des personnes qui n'étaient pas forcément intéressé pour s'investir totalement dans le monde associatif. C'est-à-dire qu'un monde associatif, ça nécessite de l'engagement, du temps, d'investissement, des gens qui sont peut-être moins friands d'être mis en avant. Donc on leur permet de venir en ne s'occupant pas des affaires courantes, de logistique, et elles viennent quand elles veulent. Donc c'est aussi ça la forme d'alliance, c'est de réunir les gens autour de différentes passions pour partager un moment sympathique au profit des causes que l'on soutient.
D'accord. Donc les années 80-90, ouais, du coup, moi, je vais vous dire, je me souviens, j'avais une Game Gear.
Ah, moi, je les ai tous.
Ah ouais.
Voilà.
Les jeux sur Game Gear, vous les avez tous.
J'ai espèce de petit musée sur Rinxan où ça regroupe, on va dire, les 75-80 mètres carrés, où dedans, vous avez les deux tiers en Star Wars et le reste avec toutes les licences qui ont pu exister, que ce soit en dessin animé, en film, en science-fiction. Ouais. Et tout dans un univers un peu style années 60-70.
D'accord, plus ancien du coup.
Oui, moi, c'est mais pour donner un peu de couleur, parce que c'est des années où il y avait vraiment de la couleur, et donc ça réveille un petit peu les jouets qu'il y avait dans les années 80-90, c'était des jouets de science-fiction qui sont plus souvent des couleurs sombres, grises, ouais. Tout ça. Donc le fait de l'accompagner avec une déco plus colorée, années 60-70, un peu pop, donc ça, voilà. Ça
du coup, c'est un musée qui est accessible, alors, c'est visitable partout.
Alors, c'est en même temps mon association, parce que j'ai une autre association à côté, qui fait office aussi quand les gens veulent. Chacun peut venir voir, découvrir ce qu'étaient les jouets, ce qu'étaient les jeux. Il y a des bornes arcade.
Il y a beaucoup de jeux de vidéo. Il a oublié de le dire, c'est qu'il a collectionne un petit peu, mais il a quand même pas mal de consoles de jeux vidéo aux années 80. C'est intéressant aussi de voir les supports, parce qu'il utilise aussi des écrans récents, mais des écrans aussi moins récents. Et puis il y a des bornes, comme il le dit. Hein. Puis tout ça mis en scène dans une décoration. Donc c'est aussi intéressant pour les amateurs de jeux vidéo.
Comment peut-on faire pour vous joindre du coup ?
Alors simplement en m'appelant sur mon téléphone portable. Voilà, c'est les gens. J'ai des gens qui viennent faire réparer leur ordinateur, comme tout à l'heure on parlait de l'ordinateur de votre radio qui va être à réparer. Et donc les gens passent, découvrent et après ils reviennent. Quelquefois avec leurs enfants, leurs petits-enfants. J'ai souvent des gens qui viennent avec deux ou trois générations, justement. Le grand-père, la fille, le fils, le petit-fils, tous fans soit de Star Wars ou de pop culture. D'accord. Et chacun y trouve un intérêt différent, quoi, suivant l'âge qu'il a. Le plus jeune sera plus attiré vers la console de jeu et le grand-père plus vers la borne arcade.
D'accord, d'accord. Vous pouvez nous lâcher votre numéro ou...
Oui, bon, on vous laissera nos coordonnées. Voilà. De toute façon, il suffit de taper simplement, il n'y a rien à cacher, hein, sur Facebook ou sur Google, vous tapez GTM, Game Toy Model, donc GTM, et vous aurez l'adresse, la photo de la maison, voilà. Voilà.
Très bien.
Alors, on va reprendre cette interview, on va faire une petite pause musicale. Suggéré par Hugo.
Par l'Alliance Galactique, par Nicolas lui-même.
Ah, d'accord. Ouais. Ok.
Oui, c'est ULVS and the News. Un petit clin d'œil à la pop culture et à la science-fiction, puisque c'est le générique d'introduction du film Retour vers le futur, donc 1985. La pop culture, les années 80, et le retour vers le futur, notre univers de science-fiction.
C'est parti.
Super, merci.
Les boulons. L'émission des boulonniers.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Donc de retour avec Marc et Nicolas de l'Alliance Galactique du Boulonnais. Donc l'Alliance Galactique qui a été créée il y a 3 ans, si je ne me trompe pas.
C'est la troisième année, oui.
La troisième année, d'accord. Donc dites-nous un peu quel genre de manifestation auxquelles vous participez.
Donc on participe à des animations qui sont organisées par d'autres associations ou par des municipalités, donc des salons de l'univers science-fiction, Star Wars notamment, du Lego, tout ce qui touche à la pop culture geek comme la Boulogne Geek Festival. On participe également à des actions menées dans des services publics comme à l'hôpital de Boulogne, les marchés de Noël. On s'occupe également on anime des stands également pour des actions comme Octobre Rose dans des commerces privés, mais également avec des structures publiques comme la ville de Boulogne sur le à Nausicaa ou sur les bords de Liane. On n'a pas de spécialité. On va pas s'investir que pour une structure. On a une diversité dans nos actions, ce qui nous permet de répondre à beaucoup de sollicitations.
D'accord, très bien. Donc il me semble que, en fait, il y a une grande partie de vos fonds, enfin de vos revenus qui sont redistribués, si je me trompe.
Oui, tout à fait. Donc là, dans le cadre de nos animations, nous allons proposer des expositions d'objets que nous créons ou que nous fabriquons, enfin que nous fabriquons ou que nous achetons, souvent encore une fois autour du thème de la science-fiction. Et à côté de ça, on va vendre des objets qu'on a achetés, également créés. Et les fonds que l'on récupère par la vente de ces objets servent à financer des œuvres caritatives ou des œuvres nationales. Comme je l'ai dit, Octobre Rose, par exemple, on a reversé plusieurs milliers d'euros à l'hôpital de Boulogne suite aux ventes de produits. Les enfants, le Noël des enfants hospitalisés, par exemple, c'est une cause qui nous tient à cœur. En septembre, il y a les enfants malades avec l'association OSE, à laquelle on essaiera de participer. Les enfants autistes, avec le PEP 62, le CESA de Peter Pan à rue de Foxton à Boulogne. Et puis d'autres causes un peu plus privées, je dirais, comme Ayla, une petite fille qui est décédée il y a un mois, malheureusement, mais on l'a soutenue pendant 8 mois en levant des fonds avec d'autres associations. Sohan, un enfant de Boulogne, ou trop je pense, qui avait besoin de fonds pour partir se faire hospitaliser au Mexique. On a cherché avec d'autres associations, comme les Petits Loups de Lyon ou d'autres structures, on a essayé de lever des fonds pour leur remettre de l'argent pour concrétiser leur projet.
Oui, d'accord. Donc avec à la clé une potentielle qualification d'association à caractère d'utilité publique.
Alors, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nos futurs partenaires. C'est-à-dire qu'avoir un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général permet aux partenaires et aux donateurs de pouvoir récupérer la moitié de leur somme en crédit d'impôt. Nous ne touchons rien là-dessus. Nous sommes une association bénévole et caritative. On reverse la totalité de nos bénéfices. Il faut le savoir, on ne se fait pas d'argent sur le dos des gens. Par contre, on estime que les gens qui font une donation, ils pourraient, par le biais de cette certification, pouvoir récupérer une partie des fonds crédit d'impôt. On a déjà un label qui est un label ESS, économie solidaire, qui nous permet social et solidaire, pardon, qui nous permet d'avoir un certain sérieux, une certaine reconnaissance, et ça aide déjà, ça ouvre pas mal de portes. Maintenant, ce caractère d'intérêt général du TPP public, ça c'est les finances, la fonction publique. Les impôts qui le donnent. Je ferai la demande, il faut 3 ans d'ancienneté, il faut de la comptabilité qui soit à jour, tout ça. Bref, c'est de la paperasse.
Oui, c'est de la paperasse. Moi, je l'avais fait pour Agatal et on l'avait obtenu.
Dans les faits, on coche toutes les cases.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
Mais maintenant, il faut qu'il y ait une décision administrative. Encore une fois, c'est pas pour nous, c'est pour nos donateurs, pour les partenaires.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, on a beau dire, quand on peut rebénéficier 50% du don...
Ça permettra aux gens...
Ça permet peut-être de donner plus.
Exactement.
Comment on peut vous retrouver? Comment on peut vous contacter?
Tout simplement sur nos pages Facebook où les gens nous suivent. On commence à avoir un bon suivi. Les gens nous reconnaissent aussi quand on fait des petites manifestations caritatives, des choses comme ça. Donc c'est très simple. On tape sur Facebook Alliance Galactique du Boulonnais. On ne peut pas se tromper. On peut nous suivre. On a une page, un groupe. Le groupe sert à mettre de la
De l'information générale.
La diversité d'informations et la page qui sert surtout pour ce qu'on a fait, comme aujourd'hui où on apparaîtra, vous apparaîtrez en photo tous.
Si avec, vous êtes d'accord, bien entendu.
Bien sûr.
Donc c'est très 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 simple de nous suivre ou même de, comment dire, de vouloir participer ou de vouloir être donateur. Voilà.
Ouais.
On a déjà des gens qui nous ont contactés pour Octobre Rose, pour qui ils ont déjà préparé un chèque et qui attendent octobre pour voilà. Donc on est quand même assez, on commence à être bien connu et reconnu surtout parce qu'on fait que du local justement.
C'est voilà. Les
c'est
fonds,
pas, c'est pas dilué, les fonds ouais. Ne sont pas dilués dans des infrastructures,
dans des causes nationales. Alors voilà. c'est très important de les soutenir également, mais nous on a pour principe de reverser des fonds à des structures ou des causes locales. Donc les gens quand ils nous donnent, on leur dit en général quand on le sait à l'avance. Pourquoi ça va être donné? Si on donne à l'hôpital de Boulogne au service cancérologie, on sait qu'on va rencontrer les infirmières, on va rencontrer les chefs de service, les docteurs, on sait que cet argent va être réinvesti dans l'achat, par exemple, d'un fauteuil de relaxation pour les personnes qui subissent des soins, et non pas être dilué au niveau national. Alors, encore une fois, je ne critique pas, c'est un constat, dilué au niveau national, et puis ensuite les fonds, on ne sait pas trop à quoi bien ils sûr. Vont servir. Mmh. Après, il faut soutenir toutes les causes à tous les niveaux. Nous, on a choisi de le faire localement, et je pense que cette démarche touche plus les gens, parce que malheureusement, on aura tous besoin, un jour ou l'autre, et vous êtes très bien placés pour le savoir, messieurs les infirmiers, de nos services publics, pour pouvoir être soignés dignement et efficacement.
Moi, je voulais juste savoir s'il y avait des manifestations là de prévues, peut-être.
Alors, les prochaines manifestations, ouais. Donc on a deux sorties qui sont prévues avec, en partenariat avec le cinéma Megarama. D'accord. De Boulogne-sur-Mer, ouais. Qui nous ont contactés pour justement organiser une, comment dire,
un ciné-débat, non,
un stand.
Voilà, on aura un stand, on aura des cosplayers, on aura une vitrine avec quelques
objets de collection sur les thématiques.
Ah, c'est très sympa. Voilà.
Thématique de Superman, la première.
Ça va être notre premier partenariat avec justement Megarama.
Il y a un film qui doit sortir justement en alors, rapport.
On va justement, ouais. On y va à deux occasions, la sortie des Spider-Man.
Superman.
Oui. J'ai dit quoi?
Spider-Man.
Non, Superman. Et la sortie des 4 Fantastiques.
D'accord.
Alors,
ils sortent tous les deux au mois de juillet, donc voilà. On nous a sollicité pour animer un petit stand. Alors, il n'y aura pas que du Superman ou du 4 Fantastiques. Comme je l'ai dit, on est assez généraliste. On a commencé à acheter des produits sur la thématique de Superman. Superman. Et fabriquer également des objets, on fabrique des badges, on fabrique des cadres que l'on va mettre en vente sur la thématique de Superman. Et on fera la même chose pour les 4 Fantastiques.
C'est une super opportunité.
Vous avez les dates?
Alors, il y a le...
Le 12 juillet, Superman.
Ouais. Et le 23
Le 26, je crois.
Le 26.
Juillet. Ouais. Fin juillet. Alors, c'est tous les deux des samedis, pas des mercredis, jour de sortie. Le cinéma et puis nos agendas.
C'est le samedi suivant la sortie.
Voilà, on a choisi le samedi pour nos agendas respectifs.
Ok.
Très bien.
Après, on a en septembre.
D'abord en août, un salon à Saint-Léonard. Oui, un village nocturne, un marché nocturne à Saint-Léonard. Donc là, on a un stand de vente. On va essayer d'apporter un peu de décoration et d'animation sur le thème de Star Wars pour changer du Marvel et du DC Comics. Et puis septembre, on a des contacts pour se raccrocher un peu aux opérations Septembre en Or pour les enfants atteints de cancer.
Les berges de la Liane.
Les berges de la Liane également, où nous serons présents une journée. C'est très intéressant et super important de pouvoir avoir une vitrine sur la ville de Boulogne, notamment sur les berges, pour expliquer nos démarches au public et puis trouver des nouveaux partenaires. Et toi,
après on a Octobre Rose.
Je dis toi parce que c'est plutôt Marc et son épouse qui pilotent les opérations.
Octobre Rose nous tient à cœur parce que mon épouse, il y a de nombreuses années, a été touchée par cette maladie. Donc on faisait partie d'une association plus grande. Et qui justement a tout le mérite d'exister, mais on voit moins ce qu'on fait, ou par les dons. Mmh. Et donc, de là, on s'est dit, on va essayer de trouver autre chose. Nico pensait à recréer une asso, donc on a dit, tiens, pourquoi pas, de venir avec et justement profiter de cet asso pour nous continuer aussi nos actions Octobre Rose, mais plus ciblées, plus pour les gens du Boulonnais. Donc tout le mois, on est reçu par Kiabi, on est reçu par des équipes de basket, que ce soit Rinxan, que ce soit Carrefour, que ce soit voilà,
la Zumba.
Les Zumba d'Outreau, la Zumba d'Émilie, enfin voilà. Beaucoup de gens commencent à venir nous demander. Tous les ans, on a plus de demandes que de jours disponibles, et où chacun justement fait son maximum pour qu'on puisse récupérer des fonds, et ces fonds après sont reversés à la fin du mois.
Eh bien, parfait. Ben, je vous remercie.
Merci
bien. Et puis, on essaiera de continuer à vous passer les dates à l'antenne.
Oui, et puis vous aurez tout le calendrier qui sera affiché régulièrement sur notre page Facebook. Suivez-nous et vous aurez des belles informations.
Merci bien.
Merci beaucoup.
Alors, nous allons continuer maintenant notre petite aventure avec Michel qui va nous parler de Michael Jordan.
Oui, donc je vais vous parler de ce mythique basketteur américain qui, avec la publicité, se faisait appeler Air Jordan. Alors, tout le monde a entendu parler de plus ou moins de Michael Jordan, un mythique basketteur américain qui a fait partie de la Dream Team, textuellement équipe de rêve, sélection américaine qui a remporté la médaille d'or au JO de Barcelone avec les stars comme Scottie Pippen, Charles Barkley, Magic Johnson, Larry Bird, Karl Malone et Clyde Drexler, etc. Son surnom de Air Jordan, donc, il le doit à sa faculté de rester en l'air plus longtemps que ses adversaires, ce qui lui permettait de marquer plus facilement les paniers, en plus de son adresse diabolique. Alors, Michael Jordan était grand, avec son 1m98, loin des géants qui peuplent les parquets de NBA. Pourtant, ses mains étaient énormes, 29 cm de long. Il pouvait soulever une citrouille d'une main, saisir un ballon de basket comme une vulgaire balle de tennis. Cet avantage donnait un contrôle exceptionnel et renforçait son style spectaculaire. Il n'avait pas besoin de gabarits démesurés, ses mains suffisaient. Alors Michael Jordan, il est né à Brooklyn en 63, mais élevé en Caroline du Nord. Il a touché ses premiers ballons dans l'arrière-cour de l'immeuble où habitaient ses parents. Il estimait que le talent ne suffisait pas et a travaillé dur pour devenir le basketteur qu'il était. Il était quatrième enfant de la famille de James Jordan et son épouse Dolores. Ses débuts de basketteur ne sont pas particulièrement glorieux. En seconde, il ne mesure que, 1m80, c'est déjà pas mal. L'année suivante, sa taille atteint 1m98, sa taille définitive, et il commence à flamber 20 points de moyenne par match avec son collège. Et c'est dans le camp universitaire à Pittsburgh où il saute, dunk et marque que les recruteurs ont un œil sur lui par son agressivité, sa grâce et sa vitesse sur le terrain. Il confirme sa grâce et son adresse alors qu'il n'a que 18 ans. Pendant 3 ans, il confirme à l'Université de Caroline du Nord. Puis il découvre la NBA avec les Chicago Bulls et son célèbre numéro 23. Sa première saison était une réussite. Il est l'un des meilleurs de la NBA. Il signe alors un contrat publicitaire juteux avec Nike qui nous fait connaître les célèbres chaussures Air Jordan. Il remporte 3 titres d'affilée avec les Chicago Bulls. Seuls les Los Angeles Lakers et Boston Celtics l'ont réalisé avant eux. En pleine gloire, il annonce sa retraite en 1993, l'année où son père est assassiné, et il montre sa lassitude des lumières de la NBA. En 1994, il surprend tout le monde en signant dans un club de baseball, les White Sox de Chicago. Après une saison honnête, il revient au basket dans son club des Chicago Bulls en 1995. Il ne tarde pas à refaire des éclats au mythique Madison Square Garden. Le 28 mars 1995, il marque 55 points face aux Knicks de New York. Le roi est de retour. Les Chicago Bulls se qualifient pour les playoffs. Ils atteignent les demi-finales de la conférence Est qui les oppose au Magic d'Orlando où évolue le jeune Shaquille O'Neal. Michael Jordan tournera à 31 points dans la phase de qualification, mais cela ne pourra pas empêcher les Magic d'Orlando de se qualifier pour la phase finale malgré les efforts titanesques de Michael Jordan. Cet échec laisse un goût amer à Jordan, mais la saison suivante, les Bulls recrutent le redoutable rebondeur Dennis Rodman. Avec Jordan et Scottie Pippen, ils constituent un redoutable trio. Les Bulls vont notamment, grâce à eux, dominer la NBA avec 72 victoires pour seulement 10 défaites. Record absolu à l'époque. Les Bulls arrivent en finale 95-96 et l'emportent. Premier titre pour Jordan depuis la mort de son père. La saison 97-98 sera du même acabit. Les Bulls arrivent encore en finale et remportent le sixième match grâce à Jordan sur une interception et un panier par une victoire d'un point contre Utah Jazz. Jordan termine donc sa carrière avec les Bulls. Sur ce match, 45 points et 6e trophée de meilleur joueur en finale. Il tentera de rentrer dans l'organigramme d'un club NBA sans succès, mais reviendra en 2001-2002 comme joueur aux Wizards. Mais l'aventure ne durera pas car son corps, à près de 40 ans, commence à lui poser des problèmes. Malgré tout, il finit sa carrière de joueur en 2002-2003 avec des stats impressionnantes pour son âge. 20 points, 6 rebonds et 3,8 passes de moyenne. Respect, Monsieur Jordan, vous nous avez fait rêver avec votre jeu spectaculaire et votre adresse légendaire.
Et entraîneur, Michel, il n'a jamais essayé d'être entraîneur ?
Non, apparemment, non. J'ai jamais entendu parler de... Il a essayé de rentrer dans... comme j'ai dit, dans l'organigramme, c'est-à-dire dans les officiels d'un club, mais ça n'a pas marché.
Très bien, merci Michel, c'était très intéressant. Un bel hommage à ce sportif accompli qui a marqué sa génération.
Sa génération, ouais.
Puis après, qui a eu une belle carrière dans la musique, hein. Michael Jordan avec Thriller, avec Billie Jean, avec Beat It.
Non, c'est Jackson.
C'est son frère.
Et Michel, t'aimes bien Michael Jordan ?
Ah, Michael Jordan, oui, je l'ai vu. J'ai vu jouer, j'ai été impressionné par son adresse, ouais, et sa vitesse surtout. Il était très très rapide. Il récupérait un ballon, il était tout de suite au bout du terrain, d'autre côté.
C'était tu l'as vu où ?
Je l'ai vu à la télé.
Ah ouais.
Ah ouais, je suis pas allé le voir, j'aurais bien aimé.
Bon,
j'aurais bien aimé y aller. Ouais.
Mes boulons, il est temps pour nous de se quitter, déjà. Je vous annonce tout de suite, maintenant, les prochaines dates. Donc ce sera au mois de juillet, le 26 juillet, 13h, le 27 juillet, 15h. Je vous remercie tous pour cette belle émission. On a passé un bon moment, j'espère que vous aussi, les auditeurs. On finit avec une dernière pause avec Indochine. Si je ne me trompe pas, c'est nos célébrations.
Exactement. Et ben, au revoir à tous et merci beaucoup pour vos écoutes.
Merci de m'avoir invité.
Merci pour l'invitation.
Merci, très intéressant. Bonne continuation.
Merci. Je suis comme une histoire et qui n'en finira pas.